distance, des verstes, des milliers. On nous a dispersés, déliés, pour qu'on se tienne bien, transplantés, sur la terre à deux extrémités. Marina Tsvetaeva.
L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak. Une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
En 1926, toujours sans se rencontrer, Marina Tsvetaeva en Vendée et Boris Pasternak en Russie continuent de s'écrire, peut-être plus intensément encore, au plus près. 8e émission.
Le 19 mai 1926. Avant celle-ci, il y en a eu 3 autres que je n'ai pas expédiées. C'est une maladie, il faut combattre cela. Ta lettre, je l'avais reçue dans l'escalier alors que je me dirigeais vers les Izvestia, où je n'avais pas mis les pieds depuis 4 ans. Je leur apportais un poème écrit trop vite par rapport à mon rythme, sur une grève en Angleterre. J'étais persuadé qu'on le refuserait. Dans le tramway, j'ai lu ta lettre et tes vers. Et c'est ainsi que je suis entré en trombe dans la rédaction, par toi et pour toi, alors que mes propres problèmes auraient suffi. Ils ne savaient pas comment se débarrasser de moi. La seule parole humaine qu'on m'ait adressée a été « Un poète dans une rédaction est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. » Par ailleurs, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire ce jour-là, et peut-être mes craintes dans l'ensemble remontent-elles à ce soir-là. J'ai dit entre autres qu'à force de jouer les mendiants, ils l'étaient devenus. Seulement des mendiants comme ça, on n'en avait jamais vu. On pouvait les exhiber dans un zoo, etc.
Saint-Gilles, le 23 mai 1926, dimanche. Alia est partie à la foire. Moursic dort. Qui ne dort est de foire. Qui naît de foire, dort. Seul, je ne suis ni à la foire, ni ne dors. La solitude renforcée par la singularité. Pour pouvoir se sentir non dormant, il faut que tous dorment. Boris, je n'écris pas les bonnes lettres. Les vrais n'effleurent pas le papier. Aujourd'hui, par exemple, pendant les 2 heures où j'ai poussé le landau de Mourka en suivant un chemin inconnu, des chemins, tournant au hasard, reconnaissant tout, aux anges d'être enfin sur la terre ferme, le sable, la mer, caressant, entre autres, des buissons piquant tout en fleurs comme on caresserait le chien d'un autre sans s'attarder. Je n'ai cessé de parler avec toi. Boris, sans arrêt, je parlais en toi, heureuse, je respirais. Les minutes où tu restais trop longtemps pensif, je prenais ta tête dans mes 2 mains et la tournais. Là. Ne pense pas que ce soit beau. La Vendée est pauvre. Des buissons, du sable, des croix. Des carrioles avec des ânes. Des vignobles chétifs. Et le jour était gris, la teinte du rêve. Et le vent, absent. Mais une impression de jour de la Pentecôte qui ne serait pas sien. Un attendrissement devant des enfants dans des carrioles tirées par les ânes. Des gamines en robes longues, sérieuses, portant des galurettes, précisément hêtes, du temps de mon enfance, ridicules, avec un fond carré et des nœuds sur les côtés. Des gamines qui ressemblent tellement à des grands-mères et des grands-mères qui ressemblent tellement à des gamines. Mais ça n'était pas de cela que nous parlions. D'autres choses, mais de cela aussi, de tout, de nous aujourd'hui, qui regardions depuis Moscou ou de Saint-Gilles, je ne sais, la Vendée, pauvre au cœur en fête. Comme dans l'enfance, quand tête contre tête, tempe contre tempe, on regarde un jour de pluie les passants. Mais il y a une chose, Boris, je n'aime pas la mer. Je ne peux pas. Tant de place et pas moyen de marcher. Edin. Elle bouge et moi je suis spectateur. Et de deux. Mais enfin, Boris, c'est toujours cette même scène. Je veux dire, mon immobilité obligée manifeste. Ma pétrification. Ma patience, que je le veuille ou non. Et la nuit. Froide, elle déferle, invisible, sans amour, infatuée d'elle-même. C'est sur la terre que je m'apitoie. Elle a froid. La mer, elle, n'a pas froid. Voilà pourquoi elle est ça. Tout ce qui en elle est épouvante se nomme ça. C'est son essence. Une immense glacière, la nuit, ou un immense chaudron, le jour, et absolument ronde. Une soucoupe monstrueuse. Plate, Boris. Un berceau immense à fond plat qui jette à bas l'enfant, les bateaux, à chaque instant. On ne peut pas la caresser, mouillée. On ne peut pas lui adresser une prière. Elle est terrible. Ainsi aurais-je, par exemple, détesté Jéhovah, comme tout pouvoir. La mer, c'est la dictature, Boris. La montagne est un dieu. La montagne est variée. La montagne s'élève jusqu'au front de Goethe et le dépasse pour ne pas le troubler. La montagne avec ses ruisseaux, avec ses terriers, avec ses jeux. La montagne, Boris, c'est avant tout mes pieds, mon exacte valeur. La montagne, c'est aussi un long tiret, Boris, que tu dois combler d'un profond soupir. Mes lettres ne sont pas préméditées, mais toi comme moi, nous devons vivre et écrire. Je ne fais que déplacer l'aiguille de la montre. Ce que j'écris sur toi et sur moi est presque terminé. Tu vois, je ne te quitte pas. Mon impression, il y a dedans quelque chose de précieux, mais des éclats. À quel point le mot révèle la chose. Je pense à certains vers. J'aimerais peindre Eurydice. Passionnément, quand elle attend, quand elle marche, quand elle s'éloigne. Avec les yeux ou avec la respiration, je ne sais pas.
5 juin 1926. En ce moment, je n'ai pas de coin à moi où je pourrais rester en tête à tête avec ta grande photographie, comme je le faisais avec la petite, quand je travaillais dans la chambre de mon frère et de ma belle-sœur. Les deux partaient au travail pour une demi-journée. Voici ce qu'est ma situation à première vue. Un homme vivait une tempête et renaissait en regardant une petite photographie. Voilà qu'il en a reçu une grande. Certains passages d'un poème le rendaient fou, et voilà qu'il a reçu deux poèmes. Une pluie d'or s'est déversée sur lui, et des gouttes d'or dans les cheveux, il s'adresse aux nuages. Attends un peu, demain je te remercierai. Aussi forte que soit ta tentation de voir les choses de cette façon, aussi vraisemblable que soit cette image, chasse ce fantôme qui n'a rien à voir avec la vérité. Le mieux serait de respecter ma demande à la lettre et de m'oublier pendant un mois. Pour l'amour de Dieu, n'explose pas. J'ai hâte d'organiser le départ de ma famille pour rester seul et me remettre au travail. Sans doute mon élan se perdra-t-il entre-temps, mais que faire ? Je crains l'été en ville, le manque d'air, la poussière, l'insomnie, le déferlement de la brutalité, celle des autres mais qui est contagieuse. Je crains l'idée de l'enfer, souffrance informe. Ce printemps, j'ai connu une crise. J'ai tenté de sortir du cercle des humiliations forcées. Étaient humiliés Génia, toi, moi-même et, quelle énumération stupide, le monde entier. Apparemment, je recommence à répandre offenses et vexations, ce qui me déprime. Je parle de l'insaisissabilité morale dont est fait le quotidien lorsque l'unique lieu pur et absolu est le travail. Toi, tu penses que c'est dur, mais normal. Moi, pas.
Boris, comme je voudrais te montrer mes brouillons. À toi. À toi, à toi seul, à personne d'autre. À toi, non pas mouchard, mais co-auteur, co-criminel. Pour un seul quatrain, tellement de colonnes et de sens. C'est un raffinement hermétique extrême de la pensée, un raffinement qui nous mène à une impasse et nous jette sur le lit. Pure folie. Le 12 juin 1926. Je te plains beaucoup pour ta vie difficile. Ceci nous restera toujours. La coalition dans la compassion. Saint-Gilles, le 21 juin 1926. Mon cher Boris, à l'instant, Schmitt par-dessus les obstacles et les revues. J'écris juste pour t'informer que tout est arrivé. Je n'ai encore rien regardé parce que la matinée bat son plein. Simultanément, une lettre de Tchécoslovaquie qui exige ou bien que je rentre sur le champ, ou bien que je refuse la location tchèque. Boris, où nous verrons-nous ? J'ai en ce moment l'impression de ne plus vivre nulle part. La Vendée, pour l'instant, mais après. En fait, j'ai une atrophie du présent. Non seulement je n'y vis pas, mais jamais je n'y suis.
Le 1er juillet 1926. C'est en vain que tu chercheras une réponse à tes trois dernières lettres. Cependant, à la seule idée que ma main tendue vers toi sera vide en un certain sens, j'ai mal. Et ça tombe mal. Cette douleur m'est nocive car elle vient s'ajouter à la fatigue et à l'abattement. Je suis resté en ville, seul, pour de nombreuses raisons, dont la principale est que je t'appartiens, et avec un seul objectif. Bien travailler, avec un rendement accéléré et amélioré, pour avoir plus de moyens et plus de loisirs l'année prochaine. Je vais te parler d'une chose brièvement, probablement la connais-tu sous un autre aspect que moi, ou peut-être ne la comprends-tu pas du tout. Peut-être qu'elle me présentera à tes yeux sous un jour inattendu et mauvais, mais je n'ai pas honte de te l'avouer. Je crains l'été en ville, car c'est un bulletin des éléments les plus élémentaires de l'être, de l'humain réduit à sa plus simple expression, mais chacun de ces éléments est présenté à l'envers et perverti, à commencer par le soleil et jusqu'à tout ce que tu voudras. La solitude prend l'aspect de la folie ou des supplices de l'enfer. Le thème de la vie, ou l'un de ces thèmes multiples, est souligné de façon bestiale et fanatique, à vous trouer le système nerveux. Si je poursuis, je vais te faire rire. Je parlerai des tentations de saint Antoine. Mais ne te moque pas. Il existe de terribles vérités qui se découvrent dans cette ébullition absurde du sang continent. Excuse-moi si j'en parle. C'est sur de telles vérités, dévoilées dans ce genre de bouleversement, que tient à d'autres moments, comme sur des arcs gémissants, toute la noblesse de l'esprit, naturellement, complètement idiote, angéliquement tragique. C'est la note la plus forte dans tout l'univers. Je crois en ce son qui fuse à travers l'espace, plus que dans la musique des sphères. Je l'entends. Je n'ai pas la force de le répéter, ni même de l'imaginer dans sa simplicité d'ouragan, dessin sommaire. Quant à ma contribution verbale à ce gémissement axial, la voici. Je me plains, car je n'aurais jamais pu aimer ma femme, ni t'aimer toi, et par conséquent m'aimer moi-même, si vous aviez été les seules femmes au monde, si vos semblables n'avaient pas été des millions. Je me plains de ne pas comprendre Adam, de ne pas ressentir ce qu'il sentait dans le livre de la Genèse. J'ignore comment son cœur était organisé, comment il sentait, ce qui lui inspirait de l'amour. Mais j'ai tort de te dévoiler tout cela, ma chère amie. Le mécanisme du sentiment, je le connais à travers cette douleur qu'il me cause parfois de l'intérieur, et c'est déjà assez amer en soi. En plus, Dieu sait ce que tu vas en penser. Mon Dieu, j'aime tellement tout ce que je n'ai jamais été et que je ne serai jamais. Je suis triste d'être moi. Laisse-moi te serrer dans mes bras en cet instant. Fort, très fort, et t'embrasser du plus profond de ces réflexions. En réalité, la tendresse était présente dans toutes ses pensées. L'as-tu entendu ?
Saint-Gilles, le 10 juillet 1926, samedi. Je ne pourrais pas vivre avec toi, non pas à cause d'incompréhension, mais pour cause de compréhension. Je ne pourrais pas vivre avec toi, Boris, en ce mois de juillet à Moscou, parce que tu déchargerais tout sur moi. J'ai beaucoup pensé à tout ceci, et même avant toi, toute ma vie. La fidélité en tant que lutte contre soi-même, je n'en veux pas, moi, comme prétexte à un acte admirable. La fidélité en tant que constance de la passion, je ne la comprends pas, elle m'est étrangère. La fidélité, aussi bien la première que la seconde, me désunit d'avec la personne. Je jette un regard en arrière. Toute ma vie durant, une seule m'a convenue. Peut-être était-ce un leurre, je ne sais pas, je ne suis pas observatrice mais intuitive. La fidélité née du ravissement. Cela, oui, me convenait. Boris. Boris, comme nous aurions été heureux, toi et moi, et à Moscou, et à Weimar, et à Prague, dans ce bas monde et surtout dans l'autre, qui est déjà tout en nous. Tes éternels départs, c'est ainsi que je le vois, et cette chose qui regarde avec tes yeux par en dessous. Ta vie, par procuration avec toutes les rues du monde, et tout droit, directement chez moi. Je ne peux pas supporter la moindre présence, et toi non plus tu ne le peux pas. Nous nous serions entendus. Mon chéri, arrache ton cœur rempli de moi. Ne souffre pas. Vis. Ne sois pas embarrassé par ta femme et ton fils. Je te donne l'absolution absolue pour tous et pour tout. Prends ce que tu peux, tant que tu as encore envie de prendre. Réponds ou ne réponds pas à ce que je t'ai écrit là, comme tu voudras. Je te suis, indépendamment de tout, non, avant et après tout, avant l'aube première, ami. Pour ce qui est de la Tchécoslovaquie, les choses s'éclairciront ces jours-ci. D'une manière ou d'une autre, nous nous verrons. Peut-être que ça me sera encore plus facile à partir de la Tchécoslovaquie, d'aller à toi, quelque part, n'importe où. Peut-être que tout est pour le mieux. Je vais à la poste. Au revoir, mon chéri.
C'était L'amour des mots. Marina Tsvetaeva et Boris Pasternak, une correspondance russe. Extrait. 10 émissions d'Hélène Bleskine.
Avec Juliette Roudet, Cédric Lenoir et les voix de France Ducato et Félicien Jutner. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Dimitris Capolan. Assistante, Julie Béressi. Réalisation, Étienne Vallès.
Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, correspondance 1922-1936, est parue aux éditions des Sirtes, traduit du russe par Evelina Mursky et Luba Jorgensen. Les lettres à Pasternak de Marina Tsvetaeva sont parues aux éditions Clémence Hiver, traduites par Nadine Dubourvieux.